Je ne sais pas si... Je ne sais pas, donc, avant de... S'il y a des questions qui vous restent de la dernière fois. Bon, je voudrais donc un petit peu regarder ce passage de la Chartreuse de Parme que donc la dernière fois j'avais laissé. On n'avait pas eu le temps de regarder. Donc vous avez demandé de regarder en plus du chapitre 3-18, que donc je l'ai la fois d'avant, le chapitre 19. Donc, 18, ça dit 19, oui, dans le second livre. Donc deux chapitres qui donc se rapportent à Fabrice en prison. Bon, avec en gros donc font la même structure un petit peu que dans le Rouge et le Noir, et disons la même figure de la prison, à savoir que la prison, bien qu'ayant été construite comme une prison modèle, aménagé de telle sorte que bon, le prisonnier soit à l'isolement maximum, dans des conditions de surveillance maximum. Donc malgré cela, la prison se révèle pour Fabrice une espèce donc de grand moment de bonheur. Bon, tout devient bonheur. Ils ont joué avec le chien, la vue sublime, les oiseaux et les cages dorées. La volière de Cléa et bon, Cléa elle-même, dont les yeux nous disent toujours, le romancier exprime la pitié la plus vive. Donc, bon, bonheur parfait, qui est comme ça résumé en une phrase de Fabrice à lui-même, toujours sur le principe un peu du soliloque, il est bien étonnant d'être en prison et de voir se raisonner ainsi pour être triste. Mais je voudrais m'arrêter sur un passage qui, exprime en même temps, décrit la menace qui pèse sur ce bonheur, à savoir bon, l'abat-jour qu'on va mettre à la fenêtre et qui va empêcher Fabrice aussi bien de voir la vue que de voir la fenêtre de Cléa. Bon, je ne sais pas où c'est dans le chapitre 18. Voilà, bon, c'est à peu près dans 10 pages après le début. Après le début du chapitre, dans une édition là, de Folio, c'est à la page 313, donc ça doit être. Je ne peux pas vous dire quel paramètre ça fait, parce que ça va être essayé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ça doit faire à peu près vers le 25e paragraphe à peu près. Bon, je ne sais pas si ça suffit pour retrouver le passage. Voilà, donc il s'agit de savoir comment il va pouvoir se débrouiller avec l'état d'ajour qui l'empêche de voir la fenêtre de Cléa. Bon, le paragraphe commence ainsi, la veille au soir avant de se coucher. Je ne sais pas si vous l'avez. La veille au soir avant de se coucher, il s'était imposé l'ennui fort long de cacher la meilleure partie de l'or qu'il avait dans plusieurs des trous de rats qui ornaient sa chambre de bois. Il faut ce soir que je cache ma montre. N'ai-je pas entendu dire qu'avec de la patience et un ressort de montre ébréché, on peut couper le bois et même le fer? Je pourrais donc scier cet abat-jour. Ce travail de cacher la montre, qui dura 2 grandes heures, ne lui sembla point long. Il songeait aux différents moyens de parvenir à son but et à ce qu'il savait faire en travaux de menuiserie. Si je sais m'y prendre, se disait-il, je pourrais couper bien carrément un compartiment de la planche de chêne qui formera l'abat-jour, vers la partie qui reposera sur l'appui de la fenêtre. Je remettrai ce morceau suivant les circonstances. Bon, je donnerai tout ce que je possède à Griot afin qu'il veuille bien me passer percevoir ce petit manège. Tout le bonheur de Fabrice était désormais attaché à la possibilité d'exécuter ce travail et il ne songeait à rien d'autre. Si je parviens seulement à la voir, je suis heureux. Non pas, se dit-il, il faut aussi qu'elle voie que je la vois. Pendant toute la nuit, il eut la tête remplie d'inventions de menuiserie. Il ne songea peut-être pas une seule fois à la cour de Parme, à la colère du prince, etc., etc. Nous avouerons qu'il ne songea pas davantage à la douleur dans laquelle la duchesse devait être plongée. Disons, bon, texte peu étonnant, texte un peu étonnant parce que, disons, on n'avait jamais entendu dire que Fabrice ait appris la menuiserie, etc. Lorsqu'on demande, il essaie de se rappeler tout ce qu'il sait faire en menuiserie, bon, il ne semble pas que la menuiserie ait jamais fait partie, disons, de l'éducation d'un jeune aristocrate italien, surtout tel que Stendhal le voit. Et bon, l'idée de couper un gros volet en bois avec un ressort de montre, etc., m'apparaît également comme quelque chose de relativement difficile, bon, même pour quelqu'un qui a l'expérience de la menuiserie, et plus encore donc pour Fabrice. Donc, quelque chose qui apparaît un petit peu comme une invraisemblance, et au fond, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu d'essayer de réfléchir sur le statut de cette invraisemblance dans l'économie fictionnelle, au fond, du roman. Bon, pour ça, je passerai par un grand détour, c'est-à-dire que je passerai par un autre texte qui n'a absolument rien à voir avec celui de Stendhal, à ceci près qu'il est à peu près contemporain, et qu'il est aussi question de menuiserie et de regarder par une fenêtre. Donc le texte, disons, à travers lequel, disons, je voudrais essayer de réfléchir un petit peu sur ce passage de Stendhal, disons, appartient à un recueil de textes que j'ai publiés. Ce sont les textes d'un ouvrier menuisier de la même période, qui s'appelle Gabriel Goni. Donc j'avais publié les textes dans un recueil qui s'appelle Le philosophe plébéien. Et donc, ce menuisier écrit dans les années 1840 une série de textes un petit peu sur l'expérience du travail. Donc une partie est publiée en 1848, donc en pleine révolution, 15 jours avant l'insurrection de juin 48, dans un journal qui s'appelle Le Tocsin des Travailleurs. Donc, dans ce texte, qui s'appelle Le Travail et la Tâche, on décrit un peu idéalement la journée du travailleur à la tâche qui est en train de poser, embarqué, dans une riche demeure. Donc, en travaillant, bien sûr, à la tâche, à son rythme, mais aussi, ça veut dire, bien sûr, en travaillant pour un patron qui l'exploite et pour un propriétaire qui occupera les lieux et qui en jouira, alors que lui retournera dans son coin. Je prends un seul petit extrait de ce texte, donc, qui nous dit ceci. « Se croyant chez lui, il aime la disposition d'une pièce tant qu'il n'a pas fini de poser son parquet. Si la fenêtre ouvre sur un jardin ou commande la vue d'un horizon pittoresque, il arrête ses bras et glisse en imagination vers la perspective spacieuse dont il jouit mieux que les propriétaires des résidences environnantes. » Bon. Pourquoi je m'arrête sur ce texte? Parce que, au fond, il est en jeu un petit peu ce que j'essaye de dégager dans les dernières fois, à savoir ce que j'appellerais un petit peu, au fond, la logique de l'état sensible d'exception ou du moment sensible, déconnecté, ou un petit peu de l'état suspensif dont j'ai un petit peu comme ça envisagé plusieurs figures à travers la rêverie de Rousseau, en référence aussi, bon, un peu lointaine, au jugement esthétique de Kant et à l'état esthétique de Schiller. Bon, en l'occurrence, donc, c'est un texte, bon, qui décrit simplement apparemment une expérience et qui décrit donc comment, disons, un travailleur s'arrête de travailler pour regarder par la fenêtre et prendre possession d'une perspective. Bon, un texte un peu anodin, en même temps, s'il paraît dans un journal, disons, ouvrier révolutionnaire en pleine période de révolution, bon, c'est pas absolument anodin, c'est parce que, de fait, on est là comme une espèce, on a justement là, disons, la façon dont cet état sensible d'exception est un peu comme au cœur de l'émancipation ouvrière, à savoir une manière de dissocier un certain schéma corporel, une manière dont le regard et les bras vont s'écarter, dont le travailleur qui est là pour faire simplement poser son parquet se transforme en voyeur, en esthète qui apprécie une perspective à travers la fenêtre. Autrement dit, ce à quoi on a affaire là, c'est à quelque chose comme, disons, une disjonction corporelle qui est au centre, justement, de ce qui s'est appelé émancipation, c'est-à-dire, au fond, la sortie d'une certaine condition avec ce qu'elle impose comme éthos physique ou comme manière d'être physique. Au fond, ce qui se passe là, c'est la, disons, disjonction du regard et des mains, mais aussi une séparation entre, disons, aussi un écart par rapport à, disons, au rapport normal de séparation entre réalité et illusion. Bon, si je prenais ce texte dans le détail, mais je ne vais pas le commenter ici, ce n'est pas mon objet. Et en plus, comme je ne l'ai pas ici, disons, je ne le connais que par, disons, une traduction anglaise. Donc ce que vous avez même lu est une retraduction de l'anglais, quoi. Qui doit être à peu près exact, mais pas tout à fait peut-être. Donc bon, je ne vais pas développer ceci. Bon, ce qui m'intéresse, c'est au fond la façon dont on se définit quelque chose comme une certaine structure d'illusion. Un peu plus loin de ce texte, disons, il nous dit ceci. Cet ouvrier à la tâche, il s'aperçoit moins de l'exploitation que le travailleur à la journée, donc celui qui est enfermé à l'atelier. Il croit qu'il obéit seulement à la nécessité des choses, tant son émancipation l'illusionne. Autrement dit, une structure d'illusion qui, là, justement, encore se sépare un petit peu du partage, on peut dire normal, on peut dire entre réalité et illusion, puisque, au fond, l'illusion, justement, disons, la conquête de l'illusion, fait partie de la transformation effective au fond d'une manière d'être au monde. Bon, quel rapport avec Fabrice dans sa prison? En un sens, aucun. Bon, Stendhal n'a pas d'intérêt particulier pour l'émancipation ouvrière. Et le menuisier qui a lu Hugo, qui apparemment a lu Balzac, qui a lu pas mal de monde, Georges Sand et d'autres, n'a apparemment pas lu Stendhal. Donc, en un sens, simplement ce qui rapproche, je crois, les deux choses, ou du moins ce qui, pour moi, est intéressant dans la mise en perspective, c'est la façon différente dont on travaille une logique de la déconnexion sensible. Au fond, cette espèce de, un petit peu comme d'isolement, d'individualisation, d'un état sensible d'exception, donc rêverie, plaisir esthétique, état esthétique, etc., fonctionne un peu comme de deux manières justement différentes. Bon, dans l'expérience ouvrière que je décris, ça fonctionne comme une possibilité nouvelle d'existence. Donc, le menuisier, sort un petit peu de sa condition en se faisant voyeur. Dans le cas de Fabrice, on peut dire que ça fonctionne complètement différemment. Bon, dans la fiction, on peut dire que le travail de menuiserie est ce qui sort Fabrice de la logique des intrigues, dont l'emprisonnement fait partie. Le travail de menuiserie, c'est une manière de se concentrer sur une fin absolument immédiate, et une manière, au fond, justement, de vivre dans le jour le jour. Je vous rappelle les textes, justement, de Rousseau, au fond, le propre de la rêverie. C'est justement cette manière de se couper en quelque sorte de tout enchaînement, temporel, de fin et de moyen, pour s'installer dans le au jour le jour. Et en l'occurrence, donc la petite tâche, le travail de menuiserie chez Fabrice fonctionne en quelque sorte comme cette espèce de, au fond, au jour le jour. Mais en même temps, ce qui est possibilité d'existence inédite dans le cas du menuisier, ce qui est, on peut dire, ressource l'existence de Fabrice, veut dire coupure dans l'économie narrative. La dernière fois, j'avais un peu commenté cette espèce de disjonction de deux logiques dans l'économie narrative du Rouge et le Noir. On peut dire que, plus encore que le Rouge et le Noir, Chartreuse de Parme est un récit comme clivé, un petit peu coupé en deux, puisque d'un côté, plus encore que le Rouge et le Noir, ça se présente, ça veut être quelque chose comme un roman, on peut dire, d'aventure, en tout cas, donc le récit d'aventure héroïques et galantes, un petit peu à la mode du temps de la Renaissance. Et donc, Nick Page y faisait allusion l'autre jour, il reprend même le modèle de la chronique, l'histoire et celui de la chronique de la Sanseverina qui lui aurait été racontée par quelqu'un qui n'aurait été témoin. Bon, on sait par ailleurs que pour faire le récit de la Chartreuse, donc Stendhal a un peu étrangement adapté donc une chronique du XVIe siècle qui est une chronique de la jeunesse d'Alexandre Farnèse, donc futur pape Paul III, je crois. Donc toute une histoire d'aventure, à la fois d'aventure galante, de prison, etc., qui effectivement, disons, un peu, a connu le type d'aventure que, qu'ils ont attribué ici à Fabrice, mais simplement une espèce de plaquage un peu singulier d'une chronique du XVIe siècle en une série d'événements, récents, une espèce de jonction directe entre l'épopée napoléonienne et puis donc cette espèce de chronique de la Renaissance, comme Stendhal les aimait, comme Balzac les aimait, au fond un petit peu des histoires des temps héroïques de l'aristocratie. Bon, je ne développe pas ça. Bon, simplement, disons, le résultat en est, on peut dire, une structure encore plus clivée que le rouge et le noir, puisque d'un côté, bon, il y a cette espèce de développement d'aventure, Fabrice à Waterloo, toutes sortes donc de batailles, le meurtre de Giletti, des aventures galantes, diverses, la prison, sortie de prison, rentrée en prison, foisonnement, donc, et plus un petit peu toutes ces intrigues de cour, extrêmement compliquées. Et disons surtout surtout un petit peu ce qui est singulier, c'est la manière dont ce récit nous met en scène des personnages qui sont censés être un petit peu des personnages justement supérieurs, quoi. le trio Mosca, Sanseverina, Fabrice, quoi. Et en même temps, ces personnages supérieurs, en gros, n'ont à peu près rien à faire de bien intéressant. Bon, finalement, qu'est-ce que Mosca fait? Mosca, l'homme qui se moque un petit peu des peurs du souverain absolutiste, en même temps, se fait un petit peu le complice, joue, le Mosca et le libéral qui joue à l'absolutiste. Bon, inversement, le libéral, en rajoute sur le... sur la rigueur de la prison, et ainsi de suite. Donc au fond, il y a une série d'aventures, mais qui se donnent un peu comme dérisoires par rapport à la qualité des personnages. Au fond, ce à quoi ils seraient simplement bons, effectivement, c'est encore une fois à jouir simplement un petit peu, du moment, de la communication immédiate d'une personne à une autre. Et bon, c'est bien pour ça que la prison est ici encore un petit peu le moment culminant du récit. Donc, une ordre du récit où ça... En même temps, ce qui est intéressant, c'est le type, on peut dire, d'illusion au sens le plus large du terme, sur lequel se concentre un petit peu, cette structure d'interruption de la prison. Bon, je faisais allusion tout à l'heure à cette espèce d'invraisemblance que constitue le travail de menuiserie de Fabrice. Bon, de même, on peut dire qu'il y a comme une espèce aussi, de vraisemblance limitée. Limité dans la façon dont, à 25 pieds de distance, Fabrice regarde, lit à chaque fois les signes dans les yeux de Clélia. Bon, par exemple, il y a un petit passage. Il salue Clélia. Sur ce, je salue la jeune fille, les lui vit relever donc ses yeux fort lentement. Non, la jeune fille resta immobile et baissa les yeux. Puis Fabrice lui vit relever fort lentement et évidemment, en faisant effort sur elle-même, elle salua le prisonnier avec le mouvement le plus grave et le plus distant. Mais elle ne put imposer silence à ses yeux. Sans qu'elle le sût probablement, ils exprimèrent un instant la pitié la plus vive. Fabrice remarqua qu'elle rougissait tellement que la teinte rose s'étendait rapidement jusque sur le haut des épaules, dont la chaleur venait d'éloigner en arrivant à la volière un châle de dentelle noire. Donc, quelque chose comme, encore une fois, une invraisemblance, en même temps, invraisemblance, on peut dire, d'un point de vue, effectivement, de la vraisemblance quasiment optique, quoi, donc la vraisemblance narrative de ce point de vue-là. Mais en même temps, on voit bien ce qui est mis en place là, à savoir, au fond, précisément, quelque chose comme une abolition de la distance. Au fond, cette espèce de communication de fenêtre à fenêtre, c'est pour l'utopie d'une espèce de lecture immédiate, des signes sur le visage de l'autre, au fond, sur un regard, sur la couleur du visage, dans le geste d'une main un peu plus loin. Bon, Fabrice, à 25 pieds toujours, voit la main de Clélia qui tremble un peu en arrosant ses plantes, et ainsi de suite. Donc, cette espèce, un petit peu comme de structure étrange, un petit peu comme de, au fond, d'abolition de la vraisemblance au profit de la lecture directe, en quelque sorte, des signes, va culminer encore plus dans le chapitre suivant. Bon, et en particulier, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu à ce passage assez singulier, qui est en quelque sorte le premier échange verbal le premier échange verbal entre Fabrice et Clélia. Donc c'est au chapitre 19, et c'est donc le 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e paragraphe. 20e paragraphe. Donc Clélia est debout à sa, fenêtre, les yeux fixés sur, donc, sur la tête de Patrice. Et bon, dès qu'elle voit Patrice, elle se précipite à son piano et elle feint de chanter un récitatif d'opéra alors à la mode. Et elle lui dit, en phrase interrompue par le désespoir et par la crainte d'être comprise par les sentinelles de se promener sous la fenêtre, debout. Je ne sais pas si vous avez ce texte, ça commence par « Grand Dieu, vous êtes encore en vie ». Donc voici le message, disons le message chanté par Clélia, depuis son piano pour Fabrice. « Grand Dieu, vous êtes encore en vie, que ma reconnaissance est grande vers le ciel. Barbone, ce geôlier dont vous punîtes l'insolence le jour de votre entrée ici, avait disparu. N'était plus dans la citadelle. Avant-hier soir, il est rentré. Depuis hier, j'ai lieu de croire qu'il cherche aux empoisonnés. Il est rendu dans la cuisine particulière du palais qui fournit vos repas. Je ne sais rien de sûr, mais la femme de chambre croit que cette figure atroce ne vient dans les cuisines du palais que dans le dessein de vous ôter la vie. Je mourrais d'inquiétude, ne vous voyant point paraître, je vous croyais mort. Abstenez-vous de tout aliment, je fais un nouvel avis. Je vais faire l'impossible pour vous faire parvenir quelque peu de chocolat. Dans tous les cas, ce soir à 9h, si la bonté du ciel veut que vous ayez un fil ou que vous puissiez former un ruban avec votre linge, laissez-le descendre de votre fenêtre sur les orangers. J'y attacherai une corde que vous retirerez à nous. Et à l'aide de cette corde, je vous ferai passer du pain et du chocolat. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est ni des paroles vraiment, disons, commodes pour un air d'opéra, ni non plus un message particulièrement économique pour quelqu'un qui est menacé d'être écouté, écouté par les gardiens. On dit, mais ce qui est d'abord, on peut dire, là, on est, disons, on peut dire, à l'invraisemblance maximum. Mais en même temps, on voit bien ce qui est en jeu, cette invraisemblance maximum, au fond, ce que Stendhal met en scène, ce qu'on représente, et par conséquent, au fond, en laissant tomber de deux côtés, finalement, toute vraisemblance, c'est quelque chose comme la communication immédiate de l'émotion de Clélia, à l'émotion, disons, au fond, à la connaissance, portée à la connaissance, au fond, de Fabrice. Ce qui fait que même le style fleuri, disons, qu'elle utilise, bon, on peut effectivement rentrer dans ce que disait Rousseau, un petit peu sur le langage de l'amour, qui effectivement ne sait pas trop bien parler. Mais l'essentiel, au fond, c'est que, d'une certaine façon, ce qui est dramatisé là, c'est quelque chose comme une espèce de, au fond, de mélodie des sentiments qui vient s'opposer radicalement, bon, au jeu des intrigues. Ont quelque chose comme, l'utopie, mais l'utopie racontée, donc, d'un langage immédiat du sentiment, dont on pourrait lire de façon immédiate, donc, les signes sans équivoque sur le visage de l'autre. Donc, là encore, on est dans une espèce de situation où, justement, on peut dire qu'un état sensible singulier, ici donc, une communication sensible immédiate pour bien comme abolir la logique de l'intrigue, puisque on sait bien que du point de vue de l'intrigue, donc Fabrice est tellement heureux que bien sûr il déclare qu'il refuse absolument, disons, de sortir de la prison. Et d'une certaine façon, ça veut dire aussi que tous les événements qui vont arriver, les manœuvres pour sortir de prison, l'évasion, le complot pour tuer le duc, l'insurrection, l'ascension de Fabrice dans la carrière ecclésiastique, tout ça apparaissant comme quelque chose de secondaire par rapport à cette espèce d'intrigue qui s'est nouée de fenêtre à fenêtre, et qui va se terminer d'une manière que je vous rappelle, à savoir, à la fin du livre, donc Fabrice retrouve Clélia mariée, ils vont se retrouver et devenir amants, mais à une condition qui est de ne pas se voir. Soi-disant, dans le récit, Clélia a fait vœu à la Vierge par repentir envers les gens qui ont voulu à son père, qui avait empoisonné, de ne plus voir jamais Fabrice. Et elle, en bonne élève des jésuites, elle trouve la solution. question qui est de le voir, la nullité de ne pas le voir, en tout cas qui est effectivement de le rencontrer tous les soirs, mais sans jamais le voir. Et on, donc, bon, et, disons, on sait qu'on arrive à ce passage bon, qui est tout à fait donc, à la fin du livre, bon, qui est tout à fait, bon, tout à fait singulier, puisque, disons, il y a. Du livre. Disons, ici, nous demandons la permission de passer sans en dire un seul mot sur un espace de 3 années. Donc, il y a les 3 années de bonheur où, effectivement, ils seront ensemble, vont être entièrement passées. Bon, on sait que Stendhal avait plus ou moins eu l'idée de faire un troisième livre de la Chartreuse qui aurait pu raconter ces 3 années de bonheur, que bon, il n'a pas, finalement, il y a renoncé. Bon, cela dit, on peut se demander qu'est-ce qu'il aurait raconté dans ce troisième livre. Bon, qu'est-ce qui manque, bon, qu'est-ce qui manque de cette façon ici. Donc, bon, je crois que donc, ce que j'ai essayé, je crois que ce qu'on peut voir à travers ces extraits, donc, c'est que dans la rouge et dans ici, comme dans le rouge et le noir, même si, disons, un petit peu les rapports de personnages sont inversés, même si l'intrigue est déplacée, on a exactement un petit peu, au fond, le même mécanisme qu'on pourrait appeler un mécanisme de double annulation. Quoi. Pour d'un côté, bon, des grands événements, Waterloo, toutes les luttes pour le pouvoir, et ainsi de suite. Et donc les grands plans des personnages, grands diplomates, Stendhal, se plaît. Dans la figure de Mosca, représenter comme ça toutes les subtilités d'un grand diplomate, on sait que Balzac aussi, on pourrait admirer ça dans le texte qu'il écrit sur. Donc sur la Chartreuse de Parme, mais bon, cela dit, malgré tout, disons, ces grandes performances bon, diplomatiques n'ont rien de très exaltant. Tout ça aboutit toujours à faire, en quelque sorte, avant l'ennemi, ce que l'ennemi aurait fait à votre place. Donc autrement dit, bon, on a tous ces personnages qui ont une stature héroïque, mais qui dépensent un petit peu leur énergie en, intrigue plus ou moins auto-annulée. Ce qui fait que, bon, d'un côté, dans cette espèce d'auto-annulation du récit à événements, et ce qui va rester donc comme vrais événements, c'est encore une fois des petits moments, quoi. Bon, si on pense après Waterloo, comme ça, une espèce d'émotion de Fabrice devant la petite Annette là, qui le soigne, ou bien la première apparition de Clélia à l'âge de 13 ans à la porte d'un carrosse, ou bien encore un moment de solitude de Fabrice au bord d'un lac, bon, si je le retrouve là encore, on peut dire qu'on n'est pas loin de Rousseau. Chapitre, donc, à un quart de lieue de Côme, il prit un sentier à gauche qui, contournant le bourg de Vico, se réunit ensuite à un petit chemin et s'établit sur l'extrême bord d'un lac. Il était minuit et Fabrice pouvait espérer ne rencontrer aucun gendarme. Les arbres des bousquets de bois que le petit chemin traversait chaque instant dessinaient le noir contour de leur feuillage sur un ciel étoilé, mais voilé par une brume légère. Les eaux et le ciel étaient d'une tranquillité profonde. L'âme de Fabrice ne put résister à cette beauté sublime. Il s'arrêta, puis s'assit sur un rocher qui s'avançait dans le lac, formant comme un petit promontoire. Le silence universel n'était troublé à intervalles égaux que par la petite lame du lac qui venait expirer sur la grève. Fabrice était un cœur italien. J'en demande pardon pour lui. Ce défaut qui le rendra moins aimable consistait surtout en ceci. Il n'avait de vanité que par accès, et l'aspect seul de la beauté sublime le portait à l'attendrissement et ôtait à ses chagrins leur pointe âpre et dure. Assis sur son rocher isolé, n'ayant pu à se tenir en garde contre les agents de la police, protégé par la nuit profonde et le vaste silence, de douces larmes mouillèrent ses yeux et il trouva à peu de frais les moments les plus heureux qu'il eût goûté depuis longtemps. Autre épisode un petit peu du même genre, l'épisode du marronnier, comme ça, du marronnier, son marronnier qu'il retrouve dans la même excursion où il va voir la baie du planète. Bon, donc une série comme ça de moments en quelque sorte, et bon, donc ce rapport de fenêtre à fenêtre, les cages, les oiseaux, les communications par signes, des étreintes dans le noir. Donc une dissociation entre finalement la chaîne des intrigues et la chaîne des émotions. Bon, je me suis arrêté là-dessus. Pourquoi? Parce que, bon, donc ce sur quoi j'ai travaillé un petit peu, c'est la question de l'événement, au fond, de l'événement romanesque. Et ce qui m'intéresse, c'est ceci, c'est qu'on est là un petit peu au moment où le roman devient la forme reine de la fiction. Et ce moment où le roman devient la forme reine de la fiction est en même temps le moment apparemment d'une dissociation interne entre deux types, au fond, d'événements, ou deux types d'enchaînements d'événements. Donc on a une logique, bon, en termes de fin poursuivie, avec obstacle, succès, échec, renversement, et ainsi de suite, quoi. Donc, au fond, la logique, en quelque sorte, analogue à celle d'une carrière, d'une entreprise, d'une intrigue, etc. Et puis, cette autre logique en termes de, au fond, de moments sensibles qui s'appellent les uns les autres, on peut dire comme par-dessus, finalement, la chaîne des événements et en l'annulant. Et avec, bon, donc, pour résultat, cette double annulation, la logique des fins étant tournée en une espèce de, finalement, de dérision, et la logique des moments sensibles étant, on peut dire, comme tendue vers une limite qui est le silence, donc quelque chose comme le langage muet, disons, d'un cœur à un autre. Alors, on peut dire c'est une structure propre au roman stendhalien. Stendhal vit entre plusieurs âges, plusieurs formes de fiction et de non-fiction. Et bon, de fait, on peut dire ces deux romans sont comme une espèce de mélange improbable, un petit peu, on peut dire en gros, de Tom Jones, du Cardinal de Ray et des Rêveries de Rousseau. Mais cette structure disjointe, je crois, n'est pas simplement une espèce de moment historique, quoi. Je pense que ça va gouverner un petit peu tout le grand âge du roman, quoi. Et donc, ce que je disais tout à l'instant, un petit peu sur cette espèce de double annulation particulier, bon, on pouvait le trouver résumé très exactement à la fin de l'éducation sentimentale. À la fin de l'éducation sentimentale, vous avez donc ce célèbre dialogue entre Frédéric et Des Lauriers. Et disons, chacun a manqué. Chacun a manqué sa vie, celui qui rêvait l'amour, celui qui rêvait le pouvoir. Et bon, Frédéric dit, c'est parce que bon, j'ai manqué de ligne droite, etc., dans l'action. Et Des Lauriers dit, moi c'est le contraire, j'ai péché par ligne droite. Donc d'une certaine façon, la ligne droite de ceux qui poursuivent des fins, disons, qui veulent arriver, et la ligne brisée de ceux qui cherchent, font la communication sensible, l'une et l'autre arrivent comme une espèce de double annulation ou de double échec. Bon, simplement, ce qui est évidemment, différent chez Flaubert, et par rapport justement un petit peu à disons, cette espèce de langage rhétorique que Stendhal prête à l'amour, c'est que Flaubert invente une écriture qui est justement quelque chose comme le succès de ce double échec, quoi. Il invente une écriture qui est capable de convertir d'une certaine façon en bonheur, l'insuccès, l'échec, aussi bien donc la perte des grandes fins que disons, bon, disons l'impossibilité de posséder celle qui est aimée. Bon, je pense que c'est particulièrement frappant justement dans l'éducation sentimentale, puisque l'éducation sentimentale, en un sens, bon, est un livre, on peut dire, en un sens, au fond, avec une structure événementielle du point de vue au fond, l'histoire des grands événements, des grands événements un peu parallèles aussi bien à celle, au fond, l'histoire de René Moreau est un peu parallèle à celle de Julien. À celle de Julien Sorel, elle est un peu parallèle aussi, bon, à celle du Rastignac et de tous les arrivistes de Balzac, quoi. Donc on a le roman où, disons, un jeune homme qui veut arriver traverse une période historique, quoi. Bon, cela dit, ce qui est frappant, c'est la manière dont, dans l'éducation sentimentale, bon, tout se passe d'une certaine façon, comme si cette espèce de conjonction impossible entre, disons, le roman de l'intrigant à succès, et puis, en tout cas, le roman du jeune homme qui veut arriver, et disons la rêverie de Rousseau, tout se passe comme si, au fond, la conjonction, là, était réussie, mais réussie à un prix qui est que finalement, tout passe du côté de l'écriture. Si vous voulez, bon, pour expliquer un peu ce que je veux dire là, je prends un passage qui est à la fin de la deuxième partie, de la deuxième partie des questions sentimentales. Donc, au moment, on peut dire, du plus grand, disons, du sommet, en quelque sorte, de la félicité commune de Frédéric Moreau et de Madame Arnaud. Bon, je lis, donc, elle est à Auteuil, lui est en train de s'occuper de de sa porcelaine à Creil et de ses maîtresses à Paris, et elle est donc à Auteuil où Frédéric va la voir tous les jours chastement. Et bon, je lis ce passage, bon, on va retrouver, disons, un petit peu toujours cette histoire de main, disons, cette histoire de main saisie, disons, ayant subi une nouvelle transformation. Bon, je lis le passage. Presque toujours, il se tenait en plein air, au haut de l'escalier. Des cimes d'arbres jaunis par l'automne se mamelonnaient devant eux, inégalement jusqu'au bord du ciel pâle. Ou bien ils allaient au bout de l'avenue, dans un pavillon ayant pour tout meuble un canapé de toile grise. Des points noirs tachaient la glace. Les murailles exhalaient une odeur de moisie. Et ils restaient là, causant d'eux-mêmes, des autres, de n'importe quoi, avec ravissement. Quelquefois, les rayons du soleil, traversant la jalousie, tendaient depuis le plafond jusque sur les dalles, comme les cordes d'une lyre. Des brins de poussière tourbillonnaient dans ses barres lumineuses. Elle s'amusait à les fendre avec sa main. Frédéric la saisissait doucement et il contemplait l'entrelac de ses veines, les grains de sa peau, la forme de ses doigts. Chacun de ses doigts était pour lui plus qu'une chose, presque une personne. Donc toujours la vieille affaire de la main, donc de la main saisie, de savoir ce qu'on va faire avec cette main qu'on a saisie, ce qu'on va faire après. Quoi. Bon, ici donc, on ne fait rien de plus. On ne fait rien de plus après, mais bon, ce qui est significatif, c'est que bon, la main est comme bon, de toute façon dissoute quoi, on peut dire deux fois dissoute. Elle est dissoute en doigts, elle est dissoute en doigts, en vin, en veines, en grains de la peau, donc comme dire polymérisée ou atomisée quoi. Et disons, au fond, ces atomes se perdent dans d'autres atomes qui sont les atomes cette poussière qui tournoie dans le soleil. Quand il y a de l'amour chez Flaubert, bon, il y a toujours des grains de poussière. Donc, ce qui est intéressant ici, au fond, c'est qu'au fond, on a en quelque sorte, au fond, donc, au fond, on peut dire comme la phrase, en quelque, la phrase à fond absorbée, on peut dire, disons, à absorber, disons, l'histoire de l'intrigue du jeune homme entièrement, donc on peut appeler, au fond, là, un petit peu la rêverie immobile ou la communication immobile. Bon, sauf que, au fond, ce qui était, bon, ce qui était le rapport chez Stendhal entre le langage muet des yeux et le langage bon, fleuri et emprunté de Fabrice et de Clélia, d'une certaine façon, bon, est devenu un langage qui est le langage anonyme des choses, le langage bon, des veines, des grains de la peau, des grains de poussière et des corpuscules de lumière. Autrement dit, on peut dire que disons, bon, la main est dissoute en petites perceptions, les sentiments sont dissous en état de la matière, et c'est comme ces états, ce sont ces états impersonnels de la matière qui sont comme, effectivement, la relation amoureuse qui est dite ici par, au fond, le rythme de ces imparfaits accumulés. Donc elle s'amusait, il la saisissait, et il contemplait, chacun ses doigts étaient pour lui, etc., etc. Donc, au fond, là, on peut dire que d'une certaine façon, cette espèce de logique de l'état suspensif partagé a été comme absorbée, finalement, elle est passée dans le rapport entre la poussière et l'imparfait. Bon, elle est passée donc à une compte, mais donc, je dirais que je voudrais m'arrêter un petit peu sur ce que ça signifie. Ce que ça signifie justement par rapport à cette espèce de, un petit peu comme de disjonction dont je parlais. Au fond, ce qui m'intéresse ici, bon, à travers cette question de l'événement, c'est le double rapport de la fiction littéraire avec l'action et avec la vérité. Bon, ce qui, bon, disons, je voudrais un petit peu, pour essayer d'expliquer un peu ça, bon, partir d'une réflexion de Stendhal. C'est une lettre de Stendhal des années 1825, bon, qui dit que probablement l'époque n'est pas à la littérature. Il écrit ceci à un de ses amis. Un homme de génie qui aurait 17 ans aujourd'hui nous donnerait le mélange de haute pensée et de sentiments profonds qui font le génie, plutôt sous la forme de discours patriotiques, tels que ceux de M. le général Foy, que sous la forme de traités philosophiques comme Pascal, Montesquieu et Rousseau. Le général Foy était le grand orateur libéral de l'époque de la Restauration en France. Bon, totalement oublié depuis. Je crois même que Molière, naissante aujourd'hui, aimerait mieux être députée que poète comique. Chaque époque a une branche de connaissances humaines sur laquelle elle concentre toute son attention. Là seulement, il y a vie. Du temps de Pétrarque, il s'agissait de découvrir et de publier des manuscrits anciens. De nos jours, hélas, la politique vole la littérature, qui n'est qu'un pis-aller. Donc, proposition de Stendhal, d'une certaine façon, comme d'une espèce de concurrence entre la politique et la littérature, et d'une concurrence, donc, et donc, une concurrence entre l'action politique comme action proprement dite, et la littérature comme enchaînement d'événements. Mais bon, on voit bien que déjà Stendhal, dans Rouge et Noir, a tendance plutôt à prouver le contraire, quoi, à savoir que la politique est comme absorbée par cette espèce de, disons, de petit peu de prolifération, au fond, de ces mondes alternatifs qu'on peut construire en enchaînant des sensations et des émotions. Et justement, si on prend l'éducation sentimentale, on peut dire que là, dans tout le rapport entre l'intrigue amoureuse et l'intrigue historico-politique, le renversement est complètement effectué. C'est-à-dire qu'on peut dire que concrètement, la littérature a volé la politique. La littérature se donne, en quelque sorte, au fond, comme le rythme vrai des événements de la vie, et dénonce bon, la politique comme une sorte de théâtre de grands acteurs et de grands événements. Ce qui veut dire que au fond, la littérature se donne, bon, la fiction littéraire, donc si on veut l'agencement littéraire des actions, donc, se donne en quelque sorte comme, disons, une espèce de distance prise ou de dénonciation font de l'action, disons, de l'action volontaire poursuivant, on peut dire, des grandes fins collectives. Et bon, et bien sûr, donc, au fond, ça veut dire qu'il y a un certain rapport littérature-vérité, disons, qui vient s'opposer, disons, un petit peu au rapport, en quelque sorte, classique de la, disons, de l'enchaînement poétique des actions avec la logique des grandes actions et des grands événements. Bon, il peut dire que tout au bout de cette évolution, bien sûr, il y a ce que dira Proust, quoi, à savoir que c'est la littérature qui est la vie véritablement vécue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la littérature est pour la construction du tissu sensible dans lequel justement on peut recueillir un petit peu tous ces moments sensibles déconnectés, disons que nécessairement sont laissés un petit peu tomber par la logique des actions finalisées, par la logique des intrigues. Bon, ceci évidemment ayant malgré tout une conséquence, bon, qui est une conséquence disons non négligeable, c'est que pour que la littérature soit la vraie vie, bon, il faut révoquer l'utopie stendhalienne de la communication directe. Bon, si, au fond, la défaite de l'action chez Stendhal, c'est, au fond, quelque chose comme le triomphe de la communication directe, de la lecture des sentiments sur les corps, sur les visages, on peut dire, bon, on sait que, disons, chez Stendhal, chez Proust, bon, ça, disons, précisément, disons, la littérature est vraie dans la mesure même où la lecture des signes est impossible. Fait que, bon, si on peut dire que les figures, aussi bien chez Proust, font les figures d'Albertine ou de Gilbert, on peut dire, sont construites très exactement comme des antiques Lélias, avec justement une espèce d'apparition qui se donne tout de suite comme une apparition opaque, finalement. Bon, je ne sais pas, j'avais demandé donc, que vous regardiez, on pourrait y revenir, mais enfin, si jamais vous avez déjà regardé du côté de chez Swann, la première apparition de Gilbert. La première apparition de Gilbert, donc dans le jardin. Donc dans le jardin de Dansonville. Et bon, je prends le texte parce que il me semble intéressant, peut-être, bon, même si j'ai l'occasion d'y revenir plus tard, de le mettre comme directement en quelque sorte au bout d'un fil qui part peut-être, disons, de la communication en prison de Fabrice Clélia. Donc, description donc, de la promenade, du parc, des aubépines et, tout d'un coup, apparition de la figure de Gilbert. Et voici comment c'est décrit. Je la regardais d'abord de ce regard qui n'est pas que le porte-parole des yeux, mais à la fenêtre duquel se penchent tous les sens, anxieux et pétrifiés. Le regard qui voudrait toucher, capturer, emmener le corps qu'il regarde et l'âme avec lui. Puis, tant j'avais peur que d'une seconde à l'autre, mon grand-père et mon père, apercevant cette jeune fille, me fissent éloigner en me disant de courir un peu devant eux, d'un second regard, inconsciemment supplicateur, qui tâchait de la forcer à faire attention à moi, à me connaître. Elle jeta en avant et de côté ses pupilles pour prendre connaissance de mon grand-père et de mon père. et sans doute l'idée qu'elle en rapporta fut celle que nous étions ridicules. Car elle se détourna, et d'un air indifférent et dédaigneux, se plaça de côté pour épargner à son visage d'être dans le champ visuel. Et tandis que, continuant à marcher, et ne l'ayant pas aperçu, il m'avait dépassé, elle laissa ses regards filer de toute leur longueur dans ma direction, sans expression particulière, sans avoir l'air de me voir, mais avec une fixité et un sourire dissimulé que je ne pouvais interpréter d'après les notions que l'on m'avait données sur la bonne éducation comme une preuve d'outrageant mépris. Et sa main esquissait en même temps un geste indécent, auquel était adressé à une personne qu'on ne connaissait pas. Le petit dictionnaire que je portais en moi ne donnait qu'un seul sens, celui d'une intention insolente. Bon, ce qui est amusant, c'est que ce texte, bon, dans la première réalisation de ce texte, disons, bon, l'intention insolente était un petit peu comme, disons, développée, et disons, il y avait, bon, dans le premier texte, bon, il y avait comme un discours des yeux de Gilberte, quoi, disons. Alors, disons, bon, c'est à, disons, quand il finalement fait la version finale, disons, ce discours des yeux de Gilberte, où on devient, enfin, cette espèce de rapport un petit peu, cette espèce de rapport opaque, c'est seulement à la fin, tout à fait à la fin, disons que, bon, Gilberte expliquera bon, au narrateur que ce petit regard comme ça, ce geste de la main n'était pas un geste de mépris à l'égard de la famille du narrateur, mais un geste, disons, qui l'invitait à au jeu qu'elle avait avec ses petits copains dans les ruines du donjon de Roussin. C'est un peu difficile, effectivement, de comprendre, disons, l'invite comme ça, bon, l'invite sexuelle, à travers, effectivement, là, ceci. Bon, mais ce qui m'intéresse donc ici, c'est au fond la façon dont sont liés se trouvent comme mis en cause pour cette question de ce que j'appelais un petit peu la disjonction du roman, quoi. À savoir que la littérature devient la vraie vie, mais au prix que précisément elle seule finalement sait faire quelque chose des signes, dont les signes en tant que signes de communication étant opaques et trompeurs. Bon, je ne sais pas, si vous avez un petit peu des questions à poser avant qu'on passe à l'autre.
Est-ce que vous pourriez revenir peut-être sur un texte que vous avez mentionné de Balzac sur la chartreuse, parce que là, justement, il semble, bon, c'est un texte très élogieux, bien sûr, mais en même temps que Stendhal lui reconnaissant, Il semble se rendre compte qu'en fait, Balzac ne comprend pas grand-chose, ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire, d'abord, Balzac fait un peu une lecture à clé des personnages de Mosca, d'Ernest, Ramus, et puis, du côté des descriptions, Balzac trouve que c'est raté. Bon, il a fait à Lyon peut-être la dernière fois. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus, justement, sur les deux approches de ces temps morts, ces temps de sensations chez Stendhal, versus les passages donc descriptifs chez Balzac qui ont figuré il y a 2 ans lors de votre présentation? Est-ce qu'il n'y a pas là une manière de concrétiser peut-être ces deux versions, peut-être de ce domaine esthétique qui est à l'œuvre différemment dans les deux auteurs?
Bon, je reviendrai tout à l'heure sur la question de la description chez Balzac, mais on peut quand même en dire un petit peu, bon, quelque chose. Bon, effectivement, je veux dire que, bon, c'est cet article de Balzac, très élogieux, en même temps, disons, comme on faisait beaucoup à l'époque les articles littéraires, à savoir que les 4/5, c'est qu'on raconte simplement ce qui se passe dans le livre, quoi. Donc, il raconte en état ce qui se passe dans le livre, avec force éloge, et on voit bien ce qui le séduit malgré tout, c'est en quelque sorte la façon dont, au fond, l'ambition de Stendhal peut être un peu assimilée à la sienne, quoi. À savoir la description d'une espèce d'intelligence machiavélique, un petit peu de la société, de comment manipuler les hommes, comment arriver au pouvoir, comment être un grand politicien, un grand diplomate, et ainsi de suite. Bon, ce qui reconnaît un petit peu, c'est chez Stendhal, et effectivement, dans un sens réussi, parce que Balzac n'a jamais réussi, de toute façon, c'est effectivement un petit peu la logique de ces personnages comme De Marsay et compagnie, que donc ils destinent toujours à des postes de ministre, ou même je crois que je crois, ils leur donnent quoi, mais sans que jamais finalement ils ponctionnent, disons en quelque sorte, disons effectivement, disons, au pouvoir. Donc je veux dire que manifestement il est fasciné et par quelque chose qui aussi fascine bon, Stendhal, quoi, à savoir c'est, bon, cette espèce de ce moment un petit peu de l'après, ce moment de l'après. De l'après-Napoléon, qui est le grand moment des diplomates. Quoi. Bon, c'est un petit peu, c'est l'apogée des diplomates, de la figure, de, font un petit peu. Justement, on voit bien comment le, c'est un petit peu les romans, enfin, un petit peu les romans comme ceux de Stendhal, et en partie, disons, un petit peu les fictions balzaciennes sont liées à ce temps de la Restauration, la monarchie de Juillet, mais aussi un petit peu le temps de la grande paix européenne, d'après le congrès de Vienne, où on a l'impression que le. Finalement, le temps des exploits militaires est parti et que maintenant les grands hommes, ce sont un petit peu les diplomates, les politiciens, ceux qui savent en quelque sorte faire de la paix dans une société, faire la paix dans une société en désordre et finalement faire concourir le désordre des ambitions, des intérêts à des espèces de fins supérieures, de maintien de l'État, de l'autorité, de la société, et ainsi de suite. Donc, il y a ce côté, effectivement. Et au fond, c'est ça que Balzac aime dans le roman, quoi. Et bon, essentiellement, quoi. Et bon, là, Stendhal ne peut être que flatté qu'effectivement, on lui donne, disons, malgré tout, le brevet de grand diplomate, quoi. Quand on est consul à Civita Vecchia, après, effectivement, 30 ans de carrière, on est content qu'on fasse de vous un grand diplomate et qu'effectivement, on vous égale à l'éternité. Bon, ça, c'est, mais évidemment, en même temps, donc, disons, il dit, oui, mais le style, alors le style, ça ne va pas, quoi. Évidemment, le style ne va pas, puisque on sait que, justement, Stendhal a horreur de tout ce qui est description, que, justement, il a horreur de tout ce qui est enjolivement, et que, par conséquent, le style doit être comme quelque chose un petit peu de transparent, et dire, bon, directement, bon, le sentiment, d'où, effectivement, disons, cette espèce de déficit, mais, en même temps, bon, Stendhal est, évidemment, un peu marie, mais en même temps il fait effort, puisqu'il essaye, il dit, bon, il répond, il est poli, évidemment, il répond qu'il va faire effort, qu'il va modifier le style, qu'il va corriger les fautes de français, et ainsi de suite. Quoi. Mais cela dit, c'est clair qu'effectivement, bon, juste précisément chez Balzac, il y a cette espèce de. Contre-utopie, quoi, où c'est pas le langage direct du, pas le langage direct du, disons, du sentiment, mais bon, un petit peu le grand tissu de signes qui sont écrits sur les choses, quoi. Ce qui fait que, bon, ce qu'il appelle, disons, pour lui, je pense que le défaut du style, bon, bah, c'est, disons, bah, c'est le défaut du tableau, quoi. Et effectivement, Stendhal ne veut pas de tableau, et d'une certaine façon, la logique, au fond, du moment sensible qu'il définit, bon, ne veut pas de tableau, c'est contre la logique du tableau. Alors, bon, évidemment, bah, Balzac l'oppose, bon, quelque chose qui est complètement différent, qui est précisément comme de faire jaillir, on peut dire, de faire jaillir la narration bon, du tableau. C'est-à-dire que bon, c'est finalement bon, ce qu'on voit, bon, on pourrait y revenir à propos de Ferragus, mais c'est finalement toujours le spectacle qui, en quelque sorte, bon, enclenche la fiction. Et bon, beaucoup de fictions balzaciennes sont des fictions effectivement qui partent, bon, ben, disons, au fond, d'un tableau au sens de quelque chose qui est vu, bon, à travers une porte, une fenêtre, et ainsi de suite. Quoi. Donc, bon, voilà un petit peu. Je ne sais pas si ça répond à votre question, ce que je pourrais dire. Mais bon, c'est sûr qu'on est effectivement sur, bon, à la fois sur deux versants opposés, et en même temps, j'essaierai de le dire, au fond, malgré tout, deux manières différentes. Bon, de traiter un problème qui est le même, à savoir que, d'une certaine façon, l'action a perdu sa linéarité, quoi. Et qu'au fond, l'enchaînement des actions volontaires menées par des individus ne suffit pas, d'une certaine façon, à faire la fiction. On n'est plus adéquate, finalement, avec le tissu sensible auquel la fiction a affaire. D'une certaine façon, c'est ça. Il y a comme une espèce d'état, en quelque sorte, du visible, un état de ce qui peut être ressenti par les individus, par la collectivité, au fond, qui commande, comme une structure fictionnelle nouvelle, une structure fictionnelle nouvelle se donne justement sur un mode qui est celui un petit peu de la séparation entre les logiques, pour le dire vite, quoi.
In relation to the question of the unreadability of the regard de Gilbert et d'Odette aussi, in Proust's...
Je vais parler d'Odette, hein, j'ai parlé de Gilbert et d'Albertine.
Mais...
J'en ai pas, oui, enfin, d'accord, mais go. Go,
go. Odette also.
Okay, go.
Difficulty reading her.
Not exactly, I think she... Well, not exactly, but... No, but go
on. In Swann's way, there seems to be a sort of... the face of Odette, her appearance, and the problem for Swann of Odette's appearance, and I was wondering if the sort of the readability or the sort of the question of placing into narrative a description of Odette's appearance in relation to Swann's experience of her and their courtship. I was wondering if that had any relation to this sort of moment or this sort of event of unreadability vis-a-vis Gilbert, and if art or painting plays a particularly interesting role in terms of mediating the problem of that impossibility of describing or of reading a character.
Ok, bon, je pense qu'il y a, enfin, il me semble que, disons, bon, pourquoi j'ai parlé de Gilbert et d'Albertine, parce que je pense qu'effectivement, il y a deux niveaux, il y a deux niveaux, d'une certaine façon, la description du rapport de Swann à Odette, en quelque sorte, bon, et la description d'une illusion, c'est-à-dire que, bon, proprement, Swann est quelqu'un qui ne comprend rien, finalement, à ce qui est, finalement, à ce qui est sur le futur, qui est incapable de lire l'histoire d'Odette bon, sur son visage, mais aussi bon, qui n'en a pas besoin, il faut qu'il ne le cherche pas, parce que bon, dès le départ, bon, comme ça, elle lui rappelle un Botticelli, il peut la situer par rapport à une peinture, un morceau de musique, ainsi de suite. D'une certaine façon, il est capable, d'annihiler totalement bon, l'histoire d'Odette, de ne pas vouloir savoir, parce que, il est dans cette espèce d'illusion esthétique qui est de s'imaginer effectivement que, au fond, on peut construire l'objet d'amour, justement, un peu comme une invention esthétique, quoi. C'est-à-dire, donc il construit, la figure, donc il gomme tout, bon, l'ancienne cocotte, etc., pour construire un petit peu avec les éléments de sa propre donc effectivement de sa propre fiction, quoi, le personnage, quoi. Donc je dirais que d'une certaine façon la figure de Swann est une figure d'illusion, quoi. Bon, la figure du c'est la figure du dupe, quoi. La figure du narrateur est la figure de celui qui est dès le départ ne sait pas ce qui est dit sur le visage de l'autre, et qui, bon, en même temps, veut posséder chez l'autre, non pas l'image qu'il a construite, mais précisément ce que l'autre lui dérobe. C'est-à-dire, Swann reconstruit Odette à sa manière, quoi. Le narrateur, lui, il peut dire, est comme une espèce de stade en quelque sorte supérieur, hein, du point de vue épistémologique, si on peut dire, puisque ce qu'il veut précisément, c'est ce que le visage de Gilbert ou d'Albertine ne lui dit pas. Ce sont tous ces mondes enfermés en elle, et bon, qui voudraient posséder. Donc, je dirais qu'il y a comme trois niveaux. Il y a le niveau de l'illusion simple, quoi, du personnage qui se construit son objet d'amour, bon, comme lui, comme Saint-Loup avec Rachel, bon, en gros, c'est pareil également, bon, comme ça, bon, l'ancienne prostituée à 20 francs, etc., qui construit comme ça, comme un personnage sublime. Bon, il y a ce niveau du narrateur qui ne peut pas se payer d'illusions, qui veut effectivement posséder ce qu'il sait, justement, qui est au fond comme le point de fuite. Le point de vue du personnage, donc de celui qui est en face, bon, dans cette problématique d'avoir à lire des signes. Sauf que les signes sont devenus opaques. Les signes s'enfoncent dans les corps, divergent de tous les côtés, qu'il y a 20 Albertines, 20 Gilbertes, et que par conséquent, bon, jamais, finalement, il y aura un message des signes. Et puis, bon, il y a le troisième niveau, qui est celui de l'écrivain, qui est celui de l'écrivain, qui précisément, on peut dire, bon, arrive comme une espèce de, disons, de dénonciation, de l'illusion qu'on puisse lire les signes sur le mode de la relation amoureuse. Au fond, l'idée, c'est qu'on ne lit pas les signes sur le mode de voilà ce que l'autre vous dit. On ne peut lire les signes finalement que sur le mode d'un d'enchaînement propre. On enchaîne les signes les uns avec les autres, les images les unes avec les autres, et bon, c'est la seule un petit peu qui fait la vie. En un sens, c'est la logique malgré tout des tourbillons de poussière de Flaubert qui poursuit de cette façon. Bon. Pas d'autres questions? Bon, c'est pas d'autres questions. Bon, je voudrais un petit peu. Je vais demander de regarder un peu certains passages de Ferragus. Parce qu'en gros, pour le dire un petit peu, ce qui m'intéresse un petit peu, bon, pourquoi j'ai donné en particulier un texte qui apparemment n'est pas un chef-d'œuvre de Balzac, disons, n'est pas une histoire absolument palpitante, quoi. C'est parce que, disons, au fond, ça entre dans un petit peu dans cette problématique, dans un petit peu dans la problématique que je me suis fixée, cette espèce un petit peu comme de, au fond, de heurts des logiques, quoi. La manière dont, au fond, quand le roman devient de la grande forme, il devient une forme clivée, scindée, quoi. Et il me semble que, au fond, la forme du grand cycle romanesque, quoi, ou la forme du super livre, est peut-être une manière précisément comme de remédier un petit peu à la disjonction des différentes logiques fictionnelles. Donc voilà un petit peu le cadre dans lequel je vais un petit peu voudrais regarder ça. Éventuellement, la prochaine fois que on regarde, bon, ça dépend un peu aussi du temps qu'on a, qu'on regarde un petit peu du côté de Zola et du côté, bon, encore une fois, mon problème n'est pas de parcourir une littérature, mais mon problème est d'essayer un petit peu comme ça, comme de pointer un petit peu certains problèmes de construction de la fiction, avec donc problème et au fond solution possible. Donc c'est un peu pour ça que j'ai envie de regarder Ferragus. Bon, est-ce que tout le monde a lu disons l'histoire même de Ferragus? Non, pas tout le monde. Bon, alors donc, bon, Ferragus est le moins célèbre de la trilogie L'Histoire des 13, bon, éclipsé par la Duchesse de Langeais et par la fille aux yeux d'or. Donc, bon, disons, pour ceux qui n'ont pas lu Ferragus, bon, je raconte l'histoire. Bon, en gros, Ferragus est... dans l'ordre, disons que Ferragus est l'histoire d'abord d'un jeune homme, donc d'un couple, une sorte de couple idéal, donc monsieur Jules Desmarets, qui est agent de change, et sa femme Clémence, donc couple idéal, amoureux, etc., sans un nuage. Bon, le premier nuage est que, disons, la beauté de Clémence attire le regard d'un jeune noble qui s'appelle Auguste de Maulincourt. Le deuxième nuage, c'est que en traquant Clémence, Auguste de Maulincourt arrive à pénétrer son secret, quoi, à savoir que Clémence va tous les jours en cachette de son mari voir un monsieur apparemment âgé, elle dira la mine un peu patibulaire, quoi. Et donc, faute disons d'a réussir à vaincre la résistance de Clémence, Le dit Auguste, disons, s'en va prévenir le mari, quoi, que, disons, que sa femme, tous les jours, va voir ce vieux monsieur dans un coin sordide de Paris, quoi. Sur quoi le mari enquête, et petit à petit, donc, disons, il se découvre que ce que va voir Clémence là, c'est son père, lequel père est un ancien bagnard, celui qui porte le titre de Ferragus, roi des dévorants, mais qui, par ailleurs, donc un membre des 13, mais un ancien bagnard qui attend qu'on lui trouve, disons, une identité un petit peu honorable pour reparaître dans la société qui, donc, dans le temps, a fait, disons, un petit peu en secret, un peu en secret la fortune de sa fille et du gendre de sa fille, mais bon, dont le gendre ignore l'existence. Bon, à la fin, donc à la fin, grande scène, comme il y a souvent chez Balzac, où quelqu'un écoute derrière un mur ou par un trou, etc. Bon, et donc, donc Jules, disons, bon, Jules, disons, découvre le secret, bon, le secret de Clémence, quoi. Mais bon, Clémence découvre que Jules l'a suivi de l'Ira, et disons, elle tombe malade, et comme souvent dans ces maladies fictionnelles, disons, la maladie conduit très vite à la mort. Donc, Clémence meurt, bon, Jules est évidemment désespéré, et bon, il a, disons, le désir d'avoir à lui les cendres de sa femme. On attend, il n'y a pas d'incinération autorisée, enfin, bon. Donc, et disons, l'avant-fin du moins du récit, donc, et, disons, c'est les 13 qui vont dérober le corps, etc., le brûler et apporter les cendres au mari. Bon, après quoi vient cette conclusion que vous avez demandé de regarder. Donc, bon, un récit pas vraiment passionnant, pas vraiment, disons, un des chefs-d'œuvre de Balzac, pas très bien fichu, quoi. Mais justement, un petit peu pour ça, j'avais demandé un petit peu de vous pencher dessus, parce que dans la mesure où c'est pas très bien cousu, quoi, ça, peut-être qu'on peut voir mieux un petit peu les éléments, justement, et les problèmes de la construction fictionnelle. Donc voilà, bon, je voudrais un petit peu, là, bon, regarder un peu ça un peu rapidement, puisqu'on n'a pas tellement de temps sur le pour en parler un peu. Donc, trois moments, la préface... la première partie, et puis la conclusion. Bon, préface, pourquoi je m'arrête sur la préface, parce que cette préface annonce quelque chose comme une espèce de grande épopée collective, annonce, dire, sur le mode quelque sorte assertif, quoi, comme si c'était comme presque historique, quoi. Donc, il s'est rencontré sous l'Empire et dans Paris 13 hommes, également frappés du même sentiment, tous doués d'une assez grande énergie pour être fidèles à la même pensée, assez proches entre eux pour ne point se trahir, alors même que leurs intérêts se trouvaient opposés, assez profondément politiques pour dissimuler les liens secrets qui les unissaient, assez forts pour se mettre au-dessus de toutes les lois, assez hardis pour tout entreprendre et assez heureux pour avoir couru les plus grands dangers, mais taisant leurs défaites. Inaccessibles à la peur, n'ayant tremblé ni devant le prince, ni devant le bourreau, ni devant l'innocent. S'étant acceptés tous tels qu'ils étaient, sans tenir compte des préjugés sociaux. Criminels sans doute, mais certainement remarquables par quelques-unes des qualités qui font les grands hommes, ne se recrutant que parmi les hommes d'élite. Donc voilà, bon, annonce donc de cette. Donc un livre qui va être un livre d'action en un double sens, d'une part marqué par un certain nombre d'événements plus ou moins extraordinaires, et bon, dans la préface, donc, disons, donne comme une sorte de série de références, bon. Disons, dans la tragédie d'Otway, là, Venise sauvée, référence à Anne Radcliffe, référence à Mathurin, donc référence, on peut dire, aussi référence au roman noir, référence aussi au conte fantastique d'Hoffmann, et derrière, il y a aussi un peu toujours la référence à l'époque de Balzac qui était les morts Cooper. Donc, on peut dire que cette histoire des 13 doit être quelque chose comme une espèce de mélange un petit peu, donc, de roman noir à Anne Radcliffe, de conte fantastique à la Hoffmann, et de grandes tragédies du pouvoir, donc comme Venise sauvée, et ainsi de suite. Donc plein d'événements et entreprises donc d'un groupe d'hommes à l'énergie sans limite, donc capable de se soumettre toute la société. Bon, une espèce de structure fictionnelle, bon, qui a évidemment ses équivalents chez Balzac. On peut penser bien sûr par exemple au discours de Vautrin à la fin des Illusions perdues à Lucien, disons, lorsqu'il est un petit peu décrit aussi comment, bon, il faut, disons, ne tenir compte d'aucun préjugé social, parce que, lui dit-il, le grand point est de s'égaler à toute la société. Donc, logique du personnage, qui en même temps, évidemment, est une logique aussi de la construction fictionnelle. Ça veut dire que l'histoire de ces gens qui sont destinés à tout, doit être en même temps une manière pour de traverser une société dans sa totalité. Donc, au fond, de donner comme une espèce de grande traversée de la société. Bon, maintenant, il faut bien voir ce que ça veut dire en termes fictionnels, quoi, parce que, bon, ça engage en fait la question de qu'est-ce que c'est qu'un roman d'irréaliste. Parce que, bon, si on regarde en particulier, bien sûr, le cas de Balzac, bon, il y a en quelque sorte une première lecture, une lecture que Balzac a lui-même revendiquée, favorisée, où le roman réaliste est comme un roman qui donne, comme un tableau de, des espèces sociales, donc une espèce de grande anatomie des espèces sociales, donc avec, comme dans l'histoire naturelle, les milieux, les habitats, les habitudes, les comportements de toutes, disons, de toutes les espèces. Le problème, c'est que ce modèle naturaliste définit pas, en fait, une structure fictionnelle. Bon, ça définit, pour que, par conséquent, le roman d'irréaliste soit le roman d'une société, bon, il suffit nullement de représenter bon, les aristocrates, les employés, les paysans, les petits bourgeois, les grands bourgeois, et bon, les nobiliaux de province, les aristocrates du Faubourg Saint-Germain. Il faut quelque chose de plus, quoi. Bon, il faut finalement que le mouvement même de la fiction apparaissent comme épousant la dynamique d'une société. Et bon, ce qui, bon, si on prend donc épouser la dynamique de la société, pour Balzac, ça veut dire bien sûr épouser la dynamique d'un désordre, à savoir le grand désordre des conditions qui est produit par la Révolution, avec la ruine des vieilles hiérarchies, des vieilles structures donc de protection, de direction de la société. Ça veut dire les malheurs de l'immigration, ça veut dire les enrichissements de toute une série donc de parvenus qui se sont enrichis par la spéculation sous la Révolution, comme le père Goriot, comme le père Grandet, etc. Donc un désordre des conditions qui se traduit aussi par un désordre des idéaux. Disons, ceux qui connaissent Mallarmé, ceux qui connaissent le texte Crise de Verre de Mallarmé, c'est que dans Crise de Verre, Mallarmé dit, au fond, la crise de verre, c'est au fond le problème de la poésie de son temps, est liée à une crise qu'il appelle crise idéale, laquelle est elle-même liée à une crise sociale. Donc on a un petit peu les mêmes trois éléments, on peut dire, chez Balzac, quoi. Au fond, la question de la fiction est suspendue, on peut dire, à une double crise, une espèce de désordre complet des conditions sociales, qui est aussi un désordre, qui est aussi, disons, une ruine, au fond, de tout ce qui est de l'ordre, pensée collective, foi collective, donc, en gros, ce désordre étant, on peut appeler, quelque chose comme le désenchantement du monde, dans ce que Balzac appelle, les conséquences catastrophes, le désordre et le ravage portés par l'intelligence dans l'homme, considéré comme individu, comme être social. Je vous renvoie pour ça à la préface des romans et contes philosophiques, c'est un texte de 1833, qui est en quelque sorte de lecture rétrospective de La peau de chagrin. Cette préface des romans et contes philosophiques, c'est pas Balzac qui l'écrit lui-même, c'est Philarète Chalm, enfin Balzac avait l'habitude, disons, d'écrire pour le compte de ses copains, disons, les articles louangeurs sur Honoré de Balzac. Bien, donc, et bon, dans ce, bon, disons, donc, il y a cette espèce de, dans ce texte, donc, cette espèce de description un petit peu d'une époque, donc, qui est ravagée par ce qu'il appelle l'analyse. Donc, je prends par exemple, dans cette préface, passage suivant, où est le merveilleux, qu'est devenue la foi, l'analyse ronge la société, en l'expliquant, etc. Bon. Résultat de cette crise sociale et idéale, c'est bien sûr que la fiction devient une œuvre pénible. Plus le monde vieillit, plus la narration est une œuvre pénible. Rendez-moi compte de cet incident, apportez-moi le comment de cet acte, le pourquoi de ce caractère, disséquez ce cadavre, sachez me plaire, soyez commentateur et amuseur. Bon, et disons, donc, on a affaire à des gens qui désormais sont, incapables, au fond, de la moindre foi dans la fiction. Bon, je prends le passage du même texte. Quel compte allez-vous faire de tels gens? Ils vous répondront qu'ils ont vu Bonaparte bivouaquer au Kremlin et coucher à leurs bras. Ils mettront vos sylphides en fuite, vos magiciens n'auront pas le moindre intérêt pour eux. Ils vous demanderont par quel procédé chimique l'huile brûlée dans la lampe d'Aladin. Ils ont demandé à M. de Balzac ce que serait advenu si Raphaël eût souhaité que la peau de chagrin s'éteinte. C'est une bonne question, effectivement, puisque la peau de chagrin, se rétrécit à chaque désir de Raphaël. Qu'est-ce qui serait passé si, effectivement, Ravel avait eu l'idée de demander la couche grasse à croître, disons sa croissance. Donc, en tout cas, bon, le tableau, un petit peu, ce tableau, c'est ça, en quelque sorte, le triomphe de l'esprit d'analyse. Et on sait que analyse, ça veut dire dissolution, donc la grande dissolution de l'ordre social, mais aussi de l'ordre idéal. Et par conséquent, pour comment faire pour enchanter un public formé par cette société. On sait que la réponse de Balzac, c'est que précisément, c'est cette situation même d'une société qui est comme rongée de l'intérieur, mais au fond, qui peut fournir un fantastique nouveau. Bon, je prends un autre passage de la même préface. Monsieur de Balzac a vu de quels éclatants dehors cette société valétudinaire s'enorgueillit, de quelle parure ce moribond se couvre, de quelle vie galvanique ce cadavre s'émeut et s'agit par intervalles, de quelle lueur phosphorique il scintille encore. Opposant au néant intérieur et profond du corps social, cette agitation factice, cette splendeur funèbre, il a cru que la mission du conteur n'était pas finie et perdue. Il y avait encore une magie dans ce contraste, une féerie de cette industrie créatrice de merveilles, un intérêt dans le jeu cupide des ressorts sociaux, caché sous de si beaux dehors, dans ce spectacle d'une société rendant le dernier soupir sous des rideaux de pourpre, d'argent et de soie. Donc, possibilité, au fond, de trouver une structure fictionnelle, à savoir précisément, au fond, l'écart même entre le néant intérieur d'une société rongée par l'analyse, d'une société en dissolution, et au fond, tous ces éclats dont elle se pare, tous ces rêves nouveaux de science, de pouvoir, de poésie, de luxe, et ainsi de suite. Donc, on peut dire, du même coup, le rôle, finalement, justement, que vont jouer, paradoxalement, dans le roman réaliste, faut dire des formes qu'on pourrait considérer comme non réalistes, quoi, comme le conte fantastique, comme toutes ces histoires de conspiration secrète, comme ces intrigues policières, et ainsi de suite. D'où aussi le rôle des intrigues de toute puissance, comme donc celle des 13, comme celle de Vautrin, comme celle du grand manipulateur, par exemple, si on prend à la fin du contrat de mariage, la grande lettre de De Marsay à son malheureux copain Paul de Manerville, pour lui expliquer ce que c'est que faire ses affaires dans le monde. Dans le monde. Donc, disons, à partir de là, disons, il y a comme le projet, au fond, de faire coïncider quelque chose comme une description en mouvement de la société avec le rôle, au fond, de ces grands manipulateurs ou grands conspirateurs qui sont font des poètes en action. Il y a un passage célèbre du Père Goriot où Vautrin dit à Rastignac : je suis un grand poète, mes poésies, je ne les écris pas. Elle consiste en action et en sentiment. De même, un des 13, est le héros de la Duchesse de Langeais, donc le général de Montriveau, on dit aussi que ce sont ses actions qui sont ses poèmes. Bien, donc, voilà un petit peu le tableau. À ceci près qu'à la fin de cette préface, de Ferragus, il y a cette déclaration un peu étrange. C'est fait dans les dernières lignes. Quelques lignes avant la fin, ce furent 13 rois inconnus, mais réellement rois, et plus que rois, des juges et des bourreaux, qui s'étant fait des ailes pour parcourir la société du haut en bas, dédaignèrent d'y être quelque chose, parce qu'ils pouvaient tout. Si l'auteur apprend la cause de leur abdication, il les dira. Il les dira d'autant moins qu'en réalité, il continuera, disons, à les faire exister dans ses romans, dans les romans suivants. Mais donc, ce qui m'intéresse quand même, au fond, c'est cette nécessité à la fin de la préface, tout en présentant la fiction un petit peu des 13 rois de la société, les 13 grands manipulateurs, de dire ceci, quoi. À savoir, ceux qui peuvent être tout ne sont rien. Bon, et ça, je crois que, ce n'est pas une affaire de trait de caractère, bien sûr, mais là encore, ça désigne en quelque sorte, au fond, un problème proprement de la fiction, quoi. Au fond, ce qui est en jeu là, c'est le modèle de la fiction, justement, comme fiction de la toute puissance, c'est-à-dire comme au fond, enchaînement défini par la puissance d'une volonté individuelle et collective. Et de fait, quand l'histoire commence, quand l'histoire des 13, donc la question de Ferragus commence, ce modèle semble remplacé par une toute autre logique fictionnelle, à savoir le drame non pas comme produit par l'action d'une sorte de grand manipulateur ou de grand décideur, mais comme saisi au passage, par le regard d'un voyeur. Le drame va apparaître comme une espèce de point de condensation, le début d'une sorte, comme une espèce de grand drame collectif, de grand bouillonnement collectif. Et justement, comme, en quelque sorte, comme le moment d'une sorte de grande effervescence qui est entièrement impersonnelle. Bon, c'est pour cela que, bon, disons le roman lui-même commence donc bizarrement, non pas du tout par nous parler des 13, de leurs actions, mais par une sorte de tableau de Paris. Donc, bon, il est dans Paris, certaines rues déshonorées autant que peut l'être un homme coupable d'infamie, puis il existe des rues nobles et ainsi de suite. Donc, bon, toute une typologie des rues de Paris, donc des rues comme la rue Montmartre, une belle tête qui finissent en queue de poisson, la rue de la Paix comme large rue, mais qui n'avait aucune des pensées gracieusement nobles, sur pas une dame impressible, mais la rue Royale, et ainsi de suite, tout ça pour arriver, disons, à l'horrible, disons, à la rue particulièrement infâme dans laquelle l'action va commencer, à savoir la rue Pajot. Donc, mais ce qui m'intéresse ici, c'est au fond comme la mise en place de tout autre chose que la fiction du manipulateur qui en quelque sorte va faire comme un fait de grand complot pour nous dévoiler au fond la société, mais au contraire une espèce de fiction qui est celle du promeneur, du voyeur, qui saisit le drame au passage et qui le saisit comme une espèce au fond de point de condensation disons de toute une sorte de grande circulation collective un petit peu, fond d'action, de pensée, d'affect, qui constitue proprement la ville. Et bon, ce qui est, comme je disais tout à l'heure, ce livre est fait un petit peu de raccord, quoi. Et bon, de fait, dans cette première partie, Balzac a un petit peu replacé les choses qu'il avait écrites un petit peu comme journaliste, comme physiologiste, bon, puisque... Bon, notamment, disons, lorsqu'il nous décrit la démarche des personnes, bon, il s'emprunte à lui-même, à sa théorie de la démarche, bon, et ainsi de suite. Et bon, il y a toute une série de portraits, comme ça, bon, différents types de mendiants, différents types de promeneurs, bon, qui appartiennent à cette littérature qui commence à fleurir et à laquelle il contribue, qui est la littérature des physiologies. Donc, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'au fond, cette espèce, donc, c'est la ville qui devient le personnage, et la ville qui devient comme une espèce de foyer, on peut dire, d'une sorte de multiplicité, au fond, infinie, de petits drames. Mais ce qui m'intéresse en même temps, c'est que, bon, là encore, on peut dire qu'il y a comme deux, bon, il y a deux regards possibles qui sont comme produits par cet espace, un petit peu, cet espace de la vie. Un premier regard, justement, qui est le regard de l'anatomiste, comme ça, qui fait un petit peu l'inventaire, donc, des types de piétons, des types de mendiants, des types de démarches, avec ce que ça suppose, là encore, à savoir une autre forme du regard supposé tout puissant, une autre forme de toute puissance, à savoir cette fiction du regard qui est capable de reconnaître le sens de ce qu'il voit. Dans l'édition, c'est dans la première partie qui s'appelle Madame Jules. Donc on décrit la poursuite, c'est une rencontre, il se trouve rencontré donc Auguste par hasard, donc cette femme qui ressemble à Clémence et qui de fait est Clémence, mais donc en même temps il est un petit peu décrit à partir de la position qui est la position du promeneur. Bon, Balzac dit ces hommes d'études, de pensée, de poésie et de plaisir savent récolter en flânant dans Paris la masse de jouissance flottante à toute heure entre ces murailles. Donc, description un peu déjà bon, du flâneur, promeneur, mais qui en même temps est donné comme une sorte, au fond, d'anatomiste, comme, disons, qui sait exactement déchiffrer le spectacle qui est devant lui. Je prends en particulier un petit passage particulièrement significatif, bon, qui dit ceci. Le châle était bien collé donc sur le buste, ayant dessiné vaguement les délicieux contours, et le jeune homme, effectivement c'est le genre de description que Stendhal n'a pas trop, quoi, et le jeune homme en avait vu les blanches épaules au bal. Il savait tout ce que ce châle couvrait de trésors. À la manière dont s'entortille une parisienne dans son châle, à la manière dont elle lève le pied dans la rue, un homme d'esprit devine le secret de sa course mystérieuse. Il y a je ne sais quoi de frémissant, de léger dans la personne et dans la démarche. La femme semble peser moins, elle va, ou mieux, elle file comme une étoile et vole, emportée par une pensée que trahissent les plis et les jeux de sa robe. Donc, déclaration en quelque sorte d'omniscience un petit peu de l'observateur, bon, qui sera mise en œuvre particulièrement bon, dans d'autres romans de Balzac, et en particulier, bien sûr, je pense au début du Cousin Ponce, cette description physique du Cousin Ponce. Les personnages sont comme ça des gens qui regardent sur le boulevard, et notamment, disons, la description d'un détail d'habillement, donc du Spencer du Cousin Ponce, dans lequel on peut dire que Balzac lit toute, disons, une condition sociale, une époque, une civilisation, et ainsi de suite. Bon, ici, ce qui est remarquable, c'est que, disons, le regard avorte, quoi, parce qu'on nous dit, à la manière dont la femme s'entortille dans son châle, et à sa démarche, on voit où elle va. Dit, il ne nous dit absolument pas où elle va. Auguste en question est tout à fait incapable de savoir où elle va. Donc il y a comme une espèce de premier type de regard qui serait une espèce de regard qui disposerait les choses en tableau, pour une espèce de maîtrise totale en quelque sorte. Mais sauf que ce regard précisément tombe sur un os, tombe sur un arrêt, quoi. Là je ne vais pas développer parce que j'ai peut-être trop attardé, mais disons, dans la deuxième partie, disons, il y a une description des types de mendiants. Alors, il y a 7-8-10 mendiants, quoi. Et puis, on arrive à ceci que le personnage que regarde Auguste, qui est au pied de la maison, et qui se révélera être Ferragus, bien sûr, ne répond à aucun de ces types. Donc, autrement dit, on a 10 types, disons, toute une typologie, bon, à ceci près que le personnage en question ne correspond à aucun de ces types, de mendiants. Donc, il décrit longuement les mendiants, et puis, disons, cette édition-là, c'est la page 105. Bon, ils ont tous un rêve, une espérance, un bonheur, le jeu, la loterie ou le vin. Il n'y a rien, se dit, étrange dans le personnage que l'écorte insouciamment sur le mur devant M. de Maulincourt. Comme une fantaisie dessinée par un habile artiste, derrière quelques toiles retournées sur son atelier. Cet homme long et sec, dont le visage plombé trahissait une pensée profonde et glaciale, séchait la pitié dans le cœur des curieux, par une attitude pleine d'ironie et par un regard noir, qui annonçait sa prétention de traiter d'égal à égal avec eux. Autrement dit, on peut dire que le personnage qui va être appréhendé par le regard physiologiste, bon, se dérobe d'emblée au regard. Et bon, je vous signale que c'est un peu intéressant, cette métaphore, quoi. Comme une fantaisie dessinée par un habile artiste derrière quelques toiles retournées de son atelier. Donc, comme opposé en quelque sorte à la figure représentative, une espèce de contre-figure, donc comme ce qui échappe précisément à toute la description des traits et à toute la lecture de ce que les traits peuvent, tout ce que les lectures peuvent signifier. Donc, à ce moment-là, on tombe sur un autre type de regard qui est le regard sur l'énigme. Le regard sur l'énigme, à savoir, bon, que, au fond, précisément, bon, il y a un spectacle comme ça, devant un mur ou derrière une fenêtre, voilà ce qui se passera un petit peu où Auguste regarde la fenêtre du deuxième étage, bon, là où Clémence vient d'entrer et là où habite Ferragus. Disons qu'au fond, on a comme une espèce de point d'arrêt précisément sur un spectacle qui en même temps est une énigme, et bon, ce point d'arrêt en même temps comme une espèce de point de fuite, quoi. De point de fuite par lequel le personnage est plus ou moins absorbé par un drame qui est là, bon, il y a un drame qui est là, donc en même temps on n'a absolument pas, bon, la clé, quoi. Bon, cette théorie, reportez au début du Père Goriot, on peut dire que l'idée même du roman réaliste est liée à cette espèce de structure, en quelque sorte, topographique, quoi. Comme un drame, on peut dire, qui est caché sur chaque figure, ou derrière chaque fenêtre, ou derrière chaque porte, quoi, au fond, comme au fond autant de points de condensation virtuelle, au fond, du grand mouvement général, donc un petit peu des ascensions et des descentes sociales, des circulations de la pensée, des circulations de l'affect dans la vie, peut-être de grands mélanges des populations, des classes, des destins, et ainsi de suite. Bon, donc il y a, et bon, au début du Père Goriot, notamment, disons, bon, il y a toute une espèce de pensée du drame, notamment lorsque Balzac décrit les personnages de la pension Fouquet, ces pensionnaires, dit-il, faisaient pressentir des drames accomplis ou en action, non pas de ces drames joués à la lueur des lampes entre des toiles peintes, mais des drames vivants ou muets, des drames glacés qui remuaient chaudement le cœur, des drames continus. Donc autrement dit, au fond, la possibilité, disons, du roman d'irréaliste, là, elle tient en quelque sorte, je dirais, comme cette espèce de, je dirais, en quelque sorte, de présence virtuelle de n'importe quel drame, en n'importe quel lieu. Bon, derrière chaque visage, il y a un destin singulier. Et si on suit, on va arriver nécessairement à une histoire, on est à un point de condensation qu'on va pouvoir suivre. Et bon, mais aussi très souvent, on a d'ailleurs cette structure où c'est le regard même qui induit le drame. Bon, il y a plusieurs des romans de Balzac. Donc on peut dire qu'ils sont directement des drames du regard. On regarde quelque chose, un spectacle, derrière une fenêtre, et tout le mal vient, disons, du regard derrière la fenêtre. Bon, on a trois. Ils ont trois romans très caractéristiques pour ça. Il y a la maison du chat qui pleut, bon, qui est donc l'histoire du peintre, comme ça, qui, derrière la fenêtre, comme ça, de la maison d'un commerçant, donc à la boutique du commerçant, vieille boutique de Guingois, il y a les fenêtres, et puis il y a une apparition. L'apparition, c'est la fille de la maison qui. Bon, que le peintre voit comme un tableau, comme une espèce de figure d'un tableau hollandais, bon, qu'il veut peindre, etc. Bon. Donc, mais bon, tout ça finira très mal, bien sûr. Il l'épousera, cela dit, il apparaîtra qu'un sujet de tableau n'est pas forcément la femme, elle n'est pas forcément la femme d'un peintre, d'où un petit peu le drame dans lequel la malheureuse se trouvera anéantie, quoi. Bon, vous avez une autre histoire, bon, qui est de la remarquable, c'est une double famille, donc l'histoire du comte de Granville, le procureur par excellence dans les romans de Balzac, disons comme ça, ça se passe dans une petite rue, là, encore une espèce de petite rue, et disons, on décrit la petite rue, il y a une vieille dame qui fait faire de la broderie, mais qui ne va plus trop bien, et puis une jeune ouvrière, comme ça, une jeune fille qui tisse, comme ça, et voilà, donc, c'est un endroit absolument sombre, dans la journée on n'y voit rien, mais le soir, quand elles allument la chandelle, on voit comme ça, donc, on voit apparaître la figure de l'ouvrière qui brode pour gagner la vie comme ça, et bon, on décrit les passants comme ça, et puis disons il y a le passant qui s'arrête, à savoir le comte donc de Granville, malheureux à cause de sa femme dévote, et qui va se trouver comme un petit peu comme happé par cette espèce de vertige, à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette figure, qu'est-ce qu'il y a derrière la fenêtre, qu'est-ce qu'il y a derrière la figure, donc, s'engouffrait donc dans ce double ménage. Quoi. Autre fiction, un petit peu de la fenêtre, celle du curé de village. Donc l'histoire de la fille d'un ferrailleur qui a fait fortune sous la Révolution, donc beaucoup de personnages de Balzac, et de sa fille une éducation supérieure à sa classe, et la petite fille est comme une espèce de petite icône, comme ça, encadrée par la fenêtre, et elle-même, de son côté, disons, se met à regarder par la fenêtre, et ça, faire toute une série de rêves qui vont l'amener à être la complice d'un assassinat. Bon, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est en même temps, donc, au fond, on voit bien que, disons, il y a cette fiction, on peut dire, cette fiction du regard, où le regard, justement, n'est plus du tout le regard qui maîtrise, mais au contraire, le regard qui est comme happé par un spectacle qui va entraîner le drame, et qui, chez Balzac, est toujours, bon, au fond, le drame de la rencontre entre deux mondes qui ne devraient jamais se rencontrer. Disons le magistrat et l'ouvrière, ou comme disons le peintre et la fille du commerçant. Or ici, bon, on peut dire qu'on a comme quelque chose qui s'amorce, mais en même temps qui est aussitôt annulé, quoi, par le regard sur la fenêtre, puisque derrière cette fenêtre, il y a ce personnage un peu bâtard, de Ferragus, ouais, l'ancien forçat, donc une espèce de mélange un peu bizarre, et en quelque sorte à la fois comme un père Goriot qui fait en cachette le bonheur de sa fille, et puis comme un vautrin, membre d'une société secrète, quoi. Et au fond, dire que la fiction amoureuse va être un peu comme coincée, finalement, entre justement l'intrigue du regard happé qui n'a pas lieu, finalement, et puis l'intrigue de la grande manipulation. Bon, je sais pas si on s'arrête là ou si j'essaye de regarder un peu le dernier paragraphe pour conclure un peu, je sais pas, ça c'est comme vous voulez. Donc, si vous voulez discuter déjà, on peut. peut-être ça arrive peut-être se reposer un peu aussi, quoi. C'est comme vous voulez. Non, hein?
C'est vous qui choisissez.
C'est moi qui choisis, c'est beaucoup de bien. Bon, j'ai pas le temps vraiment de finir. Donc, disons un petit peu, on peut aussi finir sous forme de conversation, quoi. Donc voilà, malgré tout, ce que j'aurais éventuellement vu dans la troisième partie, donc c'est la conclusion un petit peu, après la catastrophe. Donc ce personnage qui est à la fois réduit à l'inaction, il est devenu comme une statue, comme un dieu terme, comme ça, le dieu qui marque les limites, ou devenu comme un arbre arraché sur le bord du torrent, dit Balzac, donc à la fois réduit à l'inaction, et en même temps devenu indéchiffrable, donc une espèce de figure qui justement ne signifie plus rien, quoi. Et donc, ce qui m'intéresse bien sûr là, c'est comme une espèce de, apparemment, de grande déroute finale, quoi. On est dans un roman qui est annoncé comme un roman d'action, dans un roman de l'action de 13 grands manipulateurs. Et finalement, au terme, qu'est-ce qui reste? Disons, le grand manipulateur, le héros des 13, là, étant ce personnage, qui n'est plus qu'une espèce de vieillard, qui ne fait plus rien à part donner sa canne, quand il ne la donne même pas, on la lui prend pour mesurer la distance des boules au cochonnet. Et de même, on était parti un petit peu d'une espèce de tableau de Paris où tout devait faire sens, tout devait parler, et le personnage devient entièrement opaque. Il ne dit plus rien, il se contente d'être, quoi. Et cette phrase qui est tout à fait intéressante dans cette conclusion de Ferragus, on parle de ces personnages, qui s'inférent à notre souvenir et y restent comme un premier volume de roman dont la fin nous échappe. Donc, autrement dit, le roman se termine, je dirais, sur quelque chose qui serait un premier volume de roman qui précisément, ne sera jamais continué, quoi. Donc, au fond, d'une certaine façon, le roman un petit peu qui appartient au cycle des 13 grands manipulateurs, se termine sur une figure qui est la figure justement comme retournée au point zéro, quoi, du roman virtuel dont on ne saura jamais en quoi il consiste. On pourrait développer ça, mais ce qui m'intéressait, donc au fond, c'est la façon dont justement, on peut dire, Balzac négocie en quelque sorte, pour son propre compte, cette espèce de difficulté de définir une fiction du temps nouveau. Une fiction. Le problème, c'est de faire un roman de l'âge du roman, on pourrait presque le dire, quoi. Et précisément, l'âge du roman est semblant être l'âge où le roman se défait, où on ne peut plus justement, enchaîner les épisodes, mais où il y a comme toute une série de contre-forces. Ça peut être la rêverie, ça peut être la communication directe, donc silencieuse. Ici, c'est comme cette espèce de drame qui est à la fois virtuel, donc qui peut toujours se ramener comme à son point de mutisme, quoi. Il y aurait d'autres choses à en dire, mais on pourra en reparler dans la discussion, on a quand même un petit peu le temps, donc maintenant j'ouvre.